Ce matin, nous continuons notre série donc, de prédications sur les textes de la Nativité. Après avoir vu dimanche dernier avec Raph l'annonce faite par l'ange Gabriel à Marie, et avant de voir avec Scott la semaine prochaine la présentation de Jésus au temple avec Siméon et Anne notamment, ce matin nous allons nous concentrer sur le texte principal de Noël, on peut dire, le texte de la naissance de Jésus que nous avons sans doute lu, relu, encore lu, que peut-être chaque Noël nous avons l'habitude de lire, mais j'espère que ce matin ce texte, et j'en suis persuadé, Dieu est grand, va encore nous parler. Jésus, la naissance d'un sauveur extraordinaire. Il y a été beaucoup question dans nos prières de le fait que nous avons un sauveur extraordinaire et nous voulons nous rappeler de quel sauveur merveilleux nous avons. Si je vous demandais ce qui se rapproche le plus d'un sauveur dans l'imagination des gens, qu'est-ce que vous me répondriez ? Bravo, mais moi j'ai pensé d'abord à Rambo et peut-être Superman aussi. La Bible, elle, nous présente un sauveur, dans ce texte-là en tout cas, qui n'est qu'un bébé à ce moment-là, un bébé dans une mangeoire. Un sauveur qui n'est qu'un bébé. Voir dans un bébé un sauveur, ça semble tellement incongru. On peut voir beaucoup de choses, c'est tout mignon, c'est tout joli, ça crie beaucoup. Mais voir un sauveur dans un bébé, ça semble tellement ridicule, entre guillemets. Et pourtant, l'histoire de la naissance de ce bébé, Jésus, ce bébé sauveur, est connue, encore une fois, mais elle n'en demeure pas moins étonnante. Et je vous propose de plonger donc nos regards dans Luc chapitre 2, du verset 1 à 20. Le texte va s'afficher, mais si vous le souhaitez suivre dans votre Bible, vous pouvez. Là, ce sera le texte de la Summer, version Summer. Luc 2, verset 1 à 20. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Une première remarque. Ce texte débute par ces mots « en ce temps-là » et pas par « il était une fois ». L'histoire de la naissance de Jésus n'est pas un vieux conte. C'est clairement une histoire qui rentre en plein cadre dans l'histoire de l'humanité. Tous les détails que Luc nous donne ici et dans tout l'Évangile et dans les Actes des Apôtres aussi, dont il est l'auteur, sont justement présents pour nous montrer que nous sommes face à des faits qui peuvent être vérifiés, ou en tout cas qui pouvaient être vérifiés par les destinataires des écrits de Luc. À une histoire vraie, et sûrement pas à un conte. D'ailleurs, plus aucun historien sérieux ne remet en doute le fait que Jésus ait vécu. Ils remettent en doute l'aspect miraculeux de sa vie, mais ne remettent pas en doute que Jésus ait vraiment vécu. Les preuves historiques de la vie de Jésus sont par exemple bien mieux établies que les preuves historiques de la vie de Jules César, qu'on connaît tous. Nous sommes donc en ce temps-là, c'est-à-dire à peu près en l'an 4 avant Jésus-Christ, et pas en l'an 0, parce que malheureusement, le moine de Nice, quand il a fixé la date de naissance de Jésus au 6e siècle après Jésus-Christ, s'est tout simplement trompé de quelques années. Donc Jésus n'est pas né en l'an 0, il est né en l'an, sans doute, entre 4 et 2 avant cette période. À cette époque, le texte nous dit que César Auguste, qui est un fils adoptif de Jules César, règne depuis Rome sur tout le bassin méditerranéen. Et c'est ce moment précis, ce moment-là qui est choisi par Dieu pour la réalisation d'un événement historique qui a été annoncé par les prophètes depuis bien des siècles. Le Messie va naître. Le Messie va naître. Un bébé extraordinaire va venir au monde. L'apôtre Paul le confirme en Galates 4, verset 4, où il est dit « Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme. » C'était le moment fixé par Dieu. Nous sommes au moment fixé par Dieu pour la venue du Messie. Et ce n'est pas un hasard si Jésus vient au monde à ce moment-là. Il y a une série de circonstances particulières qui peuvent expliquer en partie pourquoi Jésus est né à cette époque-là. D'abord, sous le règne de César Auguste, la paix est pour la première fois instaurée dans l'ensemble de l'Empire, la fameuse Pax Romana, pour ceux qui aiment un peu l'histoire. Cette paix relative va permettre un peu plus tard, justement, aux disciples de Jésus, aux apôtres, de plus facilement répandre le message de l'Évangile. Nous sommes aussi dans une période de prospérité où beaucoup de constructions vont avoir lieu, et notamment plusieurs routes entre les grands axes, entre les grandes villes de l'Empire, qui vont aussi dans ce même sens permettre au message de l'Évangile de se propager encore une fois. Donc il y a une raison aussi historique pourquoi Dieu a choisi ce moment-là pour la naissance de son Fils sur Terre, pour la venue de son Fils sur Terre. Le problème, c'est que pour garantir cette paix et ces constructions, on a besoin de deux choses. César Auguste a besoin de deux choses. Il a besoin d'une armée, il a besoin d'argent, énormément d'argent. Et c'est pour cela qu'il a fait plusieurs recensements tout au long de son règne. Ces recensements étaient d'abord destinés donc à organiser le paiement des impôts, pour assainir les finances de l'Empire, forcément. Et aussi, c'était très utile pour savoir le nombre d'hommes en âge de devenir militaires, et ainsi faciliter le recrutement pour son armée. Même si certains peuples, comme le peuple juif, étaient exempts de cela. Le recensement qui a eu lieu en Judée, en Galilée, n'avait pas cet objectif-là, parce que le peuple juif était exempt de cet aspect-là militaire. Ce premier recensement va en tout cas obliger Joseph et Marie, ce jeune couple, à quitter Nazareth, où ils vivent pour rejoindre Bethléem au sud, à environ 120 km, dont est originaire Joseph, car il est de la famille du roi David. Ce qui est un signe de la royauté de ce Messie, qu'on a évoqué avec Raph la semaine dernière. Je me suis dit, imaginons qu'il y ait un recensement aujourd'hui ou demain. Combien d'entre nous devraient partir de France pour aller à l'étranger pour se faire recenser dans leur ville natale? Vous voulez lever la main juste? Il y en a quelques-uns, je pense. Maintenant, plus fort, combien d'entre nous devraient quitter l'agglomération grenobloise pour aller se faire recenser? Beaucoup, hein, beaucoup de personnes. Pour la petite histoire, parce que j'en connais qui vont venir me voir là, après le message, l'Alsace, dont je suis originaire, c'est en France, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Ah, parce que je vous connais, vous allez me charrier après. On serait beaucoup à devoir voyager. Donc imaginez-vous, il y avait des centaines, des milliers de personnes à cette époque de l'Empire qui ont dû faire le même parcours que Joseph et Marie, qui ont dû bouger de ville en ville pour ce recensement. Joseph et Marie sont un jeune couple parmi tant et tant d'autres qui sont obligés de se déplacer dans le cadre de ce recensement. Et ce recensement va les obliger à faire ce voyage. Un voyage qu'ils n'auraient sans doute jamais entamé s'ils n'y avaient pas été obligés, à cause de la grossesse de Marie d'une part et à cause de la difficulté du voyage sur les terrains montagneux d'autre part. Ils sont deux voyageurs parmi des milliers, engagés dans un voyage qui est loin d'être plaisant pour tous les deux. Mais ce recensement, en fait partie du plan global de Dieu pour le Messie. d'après une parole de Michée prononcée 700 ans avant la naissance de Jésus. Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. La naissance de Jésus-Christ à Bethléem n'est pas un accident, ce n'est pas un concours de circonstances, cela faisait partie du plan global de Dieu par rapport à la venue du Messie. Ce premier recensement, au-delà de servir les intérêts de César Auguste, a surtout servi à la réalisation complète du plan de Dieu pour la venue du Messie. Grâce au décret d'un empereur païen, Joseph et Marie ont été poussés à réaliser le plan complet de Dieu. César Auguste a peut-être le pouvoir de mettre en mouvement tout l'Empire d'un simple décret, mais tout son pouvoir est subordonné, qu'il le veuille ou non, à la puissance de Dieu et au fait que c'est le moment où Jésus doit venir au monde. Jésus va naître à Bethléem, comme David. Et c'est d'ailleurs, a priori, l'unique fois où Jésus sera dans ce village, cette petite ville, puisqu'il n'en est pas fait mention autre part dans les évangiles. Pendant qu'il séjourne là-bas, ce qui doit arriver arrive, Marie accouche de Jésus. La pièce réservée aux hôtes de passage était surchargée, forcément à cause du recensement. Vous imaginez, là, si on était déjà tout le monde à bouger. Et Marie et Joseph ont été obligés de loger dans une étable à côté. Il n'était pas rare à cette époque que hommes et bêtes vivent sous le même toit. Mais je pense que c'était plus rare qu'une femme accouche dans une étable, dans un tel endroit. Marie accouche au milieu d'animaux et une mangeoire sert de berceau au bébé. On peut être étonné de la manière dont est résumé cet accouchement. En quelques mots très simples, sans aucune fioriture, et résumé un événement historique, capital pour toute l'humanité, en tout cas un événement capital aux yeux de Luc. Il a juste écrit « Elle mit au monde un fils ». Rien de plus. « Elle mit au monde un fils ». La naissance de Jésus est un événement historique, et pourtant c'est décrit très sobrement. C'est quand même le Fils de Dieu, c'est quand même le Messie qui vient au monde, qui se fait homme. On pouvait s'attendre à quelque chose d'incroyable, on pourrait s'attendre à des superlatifs à n'en plus finir, une émotion, une attente palpable. Rien de tout cela. C'est tellement, ou ça semble tellement ordinaire. Un enfant né, tout simplement. Ce bébé extraordinaire naît de la manière la plus ordinaire qui soit. C'est une naissance comme les autres, comme on peut en vivre aujourd'hui, mis à part tout l'appareillage médical qu'on peut avoir comme aide aujourd'hui. Alors bien sûr, un accouchement reste un événement spécial. J'ai pu moi-même assister aux trois accouchements de mes trois enfants, enfin aux accouchements de mes trois enfants, ils sont accouchés trois fois. Et c'est forcément des choses dont on se souvient avec beaucoup de détails. Mais pour le Messie, on pourrait s'attendre à des lumières, des choses extraordinaires qui se passent. Rien de tout cela pour Marie et Joseph à ce moment-là. Un enfant né dans une étable, une histoire plus qu'ordinaire, mis à part le lieu de l'accouchement. Dieu vient sur terre et pour Marie et Joseph, cela se passe d'une manière très ordinaire. C'est très minimaliste. C'est une histoire banale, ordinaire. Rien à voir, par exemple, à la naissance du prince George, où une horde de journalistes campait devant la maternité, et cela même avant que Kate Middleton y soit admise. Pour la petite histoire, pour le deuxième accouchement de la Miss Kate, les policiers ont interdit aux journalistes de se mettre devant la maternité, merci beaucoup, pour ne pas tellement ça a été le bazar. Mais rien de tout ça pour la naissance de Jésus. Rien de tout ça. Un événement qui passe presque inaperçu. Un événement ordinaire. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seigneur de l'univers aurait pu venir avec toute sa gloire. Mais il a fait le choix d'entrer dans ce monde de la façon la plus humble possible, comme un bébé à qui on met des langes, au verset 7. Vous imaginez ? On met des langes au Fils de Dieu. Est-ce qu'on réalise à quel point Jésus a choisi de ressembler au commun des mortels ? A choisi de s'associer à notre propre vie tellement ordinaire ? Il est roi, mais il n'est pas né dans un palais. Il est Dieu, mais il est tout aussi fragile que n'importe quel autre bébé. Kent Hughes a écrit « Le bébé à qui Marie a donné naissance n'était pas un César, un homme qui allait devenir un dieu. Mais bien plus extraordinaire, il est le vrai Dieu qui deviendrait un homme. » Ça va dans le sens de la présidence de Jean-Marc avec ses deux chants « Majesté » et « Regarde le petit garçon ». Cet enfant est Dieu qui allait devenir un homme plus tard. Jésus est venu sur terre comme n'importe quel enfant, dans des conditions bien modestes, et a révélé par la suite qui il était vraiment, le Messie, l'envoyé de Dieu. Sa naissance est à l'image de sa vie, finalement, des conditions de vie très humbles, très peu semblables à ceux que nous pouvons considérer aujourd'hui comme des puissants, mais qui parlent d'une manière saisissante, comme a pu le décrire un auteur du nom de Ken Blanchard dans un célèbre essai intitulé « Une vie solitaire ». Il écrit « Jésus naquit dans un village obscur, enfant d'une femme paysanne. Il grandit dans un autre village où il travaillait dur, dans un atelier de charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Ensuite, pendant 3 ans, il fut un orateur itinérant. Il n'écrivit aucun livre. Il n'occupa jamais de fonction officielle. Il n'eut ni famille, ni maison. Il ne fréquenta pas d'université. Il ne visita jamais de grandes métropoles. Il ne s'éloigna jamais de plus de 300 km du lieu de sa naissance. Il ne fit rien de ce qui est généralement le corollaire de la grandeur. Il n'avait d'autre certificat que sa personne. Il n'avait que 33 ans quand la vague de l'opinion publique se retourna contre lui. Ses amis l'abandonnèrent, l'un de le renia, il fut livré à ses ennemis et eut à subir une parodie de procès. Il fut cloué sur une croix entre deux brigands. Tandis qu'il mourait, ses bourreaux se partageaient ses vêtements, ses seuls biens sur terre. Après sa mort, il fut déposé dans un tombeau d'emprunt grâce à la pitié d'un ami. Quelle vie ordinaire. Banale, presque. Et il continue. 20 siècles se sont écoulés. Et aujourd'hui, c'est le personnage central de la race humaine. Toutes les armées qui se mirent en marche, toutes les flottes qui parcoururent jamais les mers, tous les parlements qui siégèrent jamais, tous les souverains qui régnèrent jamais, tous réunis, n'ont pas affecté la vie de l'homme sur la terre autant que cette seule vie solitaire. C'est l'onde de choc dont parlait Anaël au moment de la scène. Des conditions de vie tellement humbles, mais une onde de choc pour toute l'humanité. En même temps que cette naissance bien ordinaire a lieu, des hommes tout aussi ordinaires gardent les troupeaux dans la campagne environnante. Il s'agit des fameux bergers qu'on voit chaque dimanche lors des fêtes de Noël de l'école dimanche notamment. Quand on évoque les bergers, il nous arrive souvent d'avoir en tête une jolie carte postale avec, à l'image de celle-ci, avec le berger gentil, bien, sous tout rapport, avec ses moutons, c'est mignon, c'est formidable. À l'époque, un berger, c'est tout sauf mignon. Tout sauf mignon. Dans la société de l'époque, les bergers, c'était les paysans qui étaient au plus bas de l'échelle sociale. C'était des exclus, des marginaux. On considérait les bergers comme des parias malhonnêtes, au point que le code pénal de l'époque leur interdisait de rendre témoignage devant un tribunal, tellement leur malhonnêteté était proverbiale. Ils n'avaient même pas le droit de rendre un témoignage devant un tribunal. Et c'est à ces exclus, ces parias, ces hommes des plus ordinaires, qu'une annonce extraordinaire là est faite. Un ange et la gloire de Dieu leur apparaît au verset 9. Je me suis demandé à quoi ça ressemble la gloire de Dieu. Les quelques hommes qui ont été confrontés à la gloire de Dieu dans la Bible nous laissent une description qui dépasse notre imagination. Ils essaient de mettre des mots sur quelque chose qui ne peut pas être décrit avec des mots humains. Par exemple, Ézéchiel 1, verset 26 à 28 nous dit « Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône, et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu tout autour. Et la partie inférieure semblait comme baignée de feu. Elle était inondée de clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans la nuée en un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais le visage contre terre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. Mais a priori, ça ressemble à ça, à peu près, la gloire de Dieu. Quelque chose qu'on ne peut pas décrire, en fait. Et devant cet ange, devant la gloire de Dieu qui se manifeste devant eux, on ne peut pas dire que les bergers fassent les malins. Ils ont peur. Ça ne leur apparaît pas comme un spectacle extraordinaire. Ils sont effrayés devant cela. Pourquoi ? Parce qu'ils sont confrontés à quelque chose d'irréel, quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'eux, des hommes bien ordinaires, sont confrontés à l'extraordinaire. Parce qu'eux, des parias, sont confrontés à Dieu, à sa gloire. Heureusement, l'ange les rassure dès ses premiers mots. Il n'est pas venu à leur rencontre pour les juger, pour leur faire peur, mais pour qu'ils participent à leur joie. Il est venu, au verset 10, leur annoncer une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Le mot nouvelle qu'utilise l'ange à cette occasion a une connotation toute particulière dans le texte original. À cette époque, ce mot était utilisé pour l'annonce d'une nouvelle très importante, comme une victoire militaire ou un couronnement impérial. Un commentateur écrit à propos de l'importance de cette nouvelle, « C'est un peu comme quand les cloches de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ont sonné pour marquer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une nouvelle d'importance, quelque chose qui a du poids, une nouvelle qui doit être un sujet de joie. Lorsqu'on fait une annonce d'une telle importance, la logique voudrait, en tout cas notre logique voudrait, de choisir avec beaucoup d'attention qui on informe et comment on va informer. Mais dans ce cas-là, on peut dire que Dieu défie toute logique humaine. Il a offert le plus extraordinaire faire-part de naissance de tous les temps à des parias, à des petits hommes, à des hommes tellement ordinaires. Les dernières personnes à qui nous aurions pensé peut-être, des bergers sans influence, d'aucune sorte, ni politique, ni religieuse. C'est ces hommes impopulaires et très ordinaires qui deviennent les dépositaires de la plus grande nouvelle qui soit jamais parvenue à un être humain. Dieu est venu sur la terre. Dieu est venu sur la terre. Dieu vient sur terre, c'est la nouvelle la plus exceptionnelle qui soit. James Irwin, un astronaute qui a marché sur la Lune, l'a très bien exprimé lorsqu'il a dit « Le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la terre. C'est que Dieu ait marché sur la terre. C'est pas que l'homme ait marché sur la lune, pardon. C'est que Dieu ait marché sur la terre, excusez-moi. Pourquoi un tel choix ? Pourquoi ces bergers ? Peut-être pour bien marquer que cette nouvelle, cette annonce, doit être le sujet de joie pour tous, et même pour ces hommes impopulaires, même pour ces petits gens. Même pour ces gens tellement ordinaires. Ce n'est pas un sujet de joie réservé aux grands, mais c'est un sujet de joie pour chacun, le plus ordinaire soit-il. L'ange poursuit en expliquant quelle est cette annonce si merveilleuse. Il dit, au verset 11, « Un sauveur vous est né aujourd'hui. » Un sauveur vous est né. C'est ça la bonne nouvelle qui doit remplir de joie les bergers, et nous avec. Un sauveur nous est né. À ce propos, John MacArthur a écrit « À Halicarnasse, la ville natale d'Hérodote, un célèbre écrivain grec, on a retrouvé une inscription à propos de César Auguste, qui régnait à cette époque, je vous rappelle, qui affirme « César Auguste, le sauveur du monde ». César Auguste, le sauveur du monde. Au moment, il poursuit, au moment où le vrai sauveur du monde est né dans l'obscurité, un faux sauveur est sur le devant de la scène mondiale. Il domine à travers sa gloire et son prestige, alors que le vrai sauveur est né sans gloire, ni privilège, mais humblement. Le faux sauveur était assis sur le plus prestigieux trône dans la ville dominante du monde de cette époque, Rome. Le vrai sauveur, lui, est né dans l'humble village de Bethléem. Le contraste est saisissant. Et pourtant, aujourd'hui, qui est-ce qui croit encore que César Auguste est son sauveur ? Ça serait intéressant de faire un tour dans la ville, de savoir même qui c'est qui connaît César Auguste. Et Jésus, lui, et le sauveur de foule parmi les peuples de la terre. Si le sauveur est né, c'est que nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose. On l'a évoqué dans nos prières. Ce passage n'en parle pas explicitement, mais avant sa naissance, un ange avait prévenu Joseph. Il lui avait dit la raison de la venue de cet enfant. En Matthieu 1, verset 21, il est écrit, c'est lui, c'est cet enfant, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Mais qu'est-ce que c'est le péché exactement ? 1 Jean 3, verset 4 nous dit, le péché par définition, c'est la violation de la loi de Dieu. Le péché par définition, c'est la violation de la loi de Dieu. Autrement dit, le péché, c'est tout ce que nous pouvons penser, dire, faire contre Dieu. À chaque fois que je m'oppose à la loi de Dieu, à chaque fois que je m'oppose à Dieu d'une manière ou d'une autre, je pêche et je ne peux plus avoir de relation avec Dieu. L'ange continue et poursuit en attribuant des titres de gloire à ce bébé qui sont en contraste flagrant avec la situation dans laquelle est né cet enfant. Il appelle au verset 11 « Messie Seigneur ». Un commentateur fait la remarque qu'il s'agit des deux titres suprêmes du monde juif et païen. Pour les juifs, le Messie, c'est le nouveau David, le grand roi envoyé pour restaurer la nation d'Israël. Pour les Romains, Seigneur, ça faisait référence à César, au fait que c'est l'équivalent d'un dieu. Autrement dit, ce n'est pas un sauveur de pacotille qui est né. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour donner une simple béquille. C'est un sauveur puissant qui est né à Bethléem. C'est un sauveur extraordinaire qui est né. Il s'agit d'une naissance bien ordinaire, mais ce bébé est extraordinaire. L'ange termine son discours au verset 12 en donnant quelques détails, de manière à ce que les bergers puissent retrouver cet enfant. Et par la suite, une multitude d'anges se réunit alors autour des bergers et qui sont les témoins du plus grand spectacle son et lumière qui ait jamais été donné sur cette terre. Les anges manifestent un enthousiasme palpable dans cette naissance hors du commun. Ils disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Ils rendent gloire à Dieu. C'est peut-être la première fois qu'une armée, l'armée céleste, a un message de paix. Paix sur la terre à ceux qu'il aime. Il s'agit de la paix avec Dieu, et pas d'une paix relative comme la Pax Romana pouvait exister à cette époque-là. C'est la paix avec Dieu qui est possible aujourd'hui. La paix avec Dieu est possible parce qu'elle va être scellée grâce à Christ, comme l'affirme par exemple Paul en Romains 5, verset 1. « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Cet enfant va permettre de rétablir la paix entre les hommes et Dieu. Et c'est pour ça que c'est un sauveur extraordinaire. Imaginez-vous à la place des bergers. Quelle aurait été votre réaction devant une telle annonce ? Qu'auriez-vous fait ? Est-ce que vous auriez voulu en savoir plus ? D'autres personnes n'ont pas voulu en savoir plus. Je pense à tous les religieux quand les mages sont passés, quand ils sont allés voir Hérode. Est-ce que vous auriez voulu en savoir plus ? Les bergers, eux, ces hommes très ordinaires, ont cru le message des anges et ont voulu en savoir davantage. Immédiatement après le départ des anges, ils ont essayé de se rendre à Bethléem pour voir de leurs propres yeux ce nouveau-né. Ils voulaient le voir, le constater. Le texte nous montre leur empressement. Au verset 16, ils se dépêchèrent. Non seulement ils veulent en savoir plus, mais ils sont pressés. Ils ne veulent pas louper l'occasion de voir leur sauveur, même si ce n'est encore qu'un bébé à ce moment-là. Arrivés à Bethléem, ils ont sans doute toqué à de nombreuses portes. Ils ont sans doute interrogé plusieurs personnes avant d'enfin pouvoir trouver Joseph et Marie entourant l'enfant dans une mangeoire, comme les anges leur avaient révélé. Et après avoir vu cet enfant, constaté la réalité de la promesse et de l'annonce faite par les anges, après avoir rencontré leur sauveur, le témoignage qu'il donne a un grand impact. Un impact d'abord sur le voisinage. Le message des anges a été donné à de simples bergers. Et ce message est un sujet de joie pour tous. Et les bergers ne se font pas prier. Ils partagent ce sujet de joie avec tous ceux qui veulent bien l'entendre. Ils témoignent à tous sans faire de distinction. Eux qui n'avaient même pas le droit de témoigner devant un tribunal sont les premiers témoins de la naissance de Christ. Ils ont participé à l'expansion de cette bonne nouvelle. Le réconfort aussi pour Marie. Marie avait reçu une révélation exceptionnelle de la part d'un ange. On l'a évoqué dimanche dernier. Mais elle n'en demeure pas moins une jeune fille qui n'a sans doute pas plus de 16 ans à ce moment-là. L'ange lui a annoncé qu'elle allait accoucher du Messie, du Fils de Dieu. Et je peux imaginer que Marie s'attendait sans doute à accoucher dans d'autres conditions, d'une autre manière que la façon très ordinaire, très humble dans laquelle elle a pu accoucher. Le bébé, quand il est venu au monde, n'avait pas une auréole sur la tête. Il n'y avait pas des jets de lumière partout pour elle. Marie et Joseph avaient eu une annonce particulière, mais là, rien de spécial. Elle aurait pu douter de cette annonce en voyant l'ordinaire. Et je pense que le témoignage des bergers est sans aucun doute réconfortant pour elle. Pour toutes les mères, leur enfant est le plus beau. Mais malgré tout, je crois que Marie avait vraiment besoin, à ce moment-là, de ce réconfort apporté par le témoignage des bergers. Et enfin, le dernier impact, c'est sur les bergers eux-mêmes. C'est sans doute l'impact le plus grand. Il est dit, au verset 20, qu'ils s'en retournèrent louant et glorifiant Dieu. Pour eux, cette rencontre avec Jésus, même s'il n'était qu'un bébé, a été décisive. À n'en pas du tout douter, il y a eu un avant et un après la rencontre avec cet enfant. Ils ont pu goûter à la réalisation de la promesse de Dieu. Et ils ont glorifié Dieu que des hommes comme eux, tellement ordinaires, insignifiants, ont le privilège de rencontrer un bébé tellement extraordinaire et merveilleux. Ils ont compris que ce bébé était le sauveur venu les délivrer de leurs péchés, venu pour rétablir la paix entre eux et Dieu, comme l'ange leur avait annoncé. En conclusion, le message de Noël, c'est celui-ci. Un sauveur extraordinaire est venu pour des pécheurs ordinaires. Un sauveur extraordinaire est venu pour des pécheurs ordinaires. Marie et Joseph sont des parents ordinaires. Les bergers sont des hommes ordinaires. Cette histoire est très ordinaire. Mais il y a une personne qui est extraordinaire. Ici, c'est cet enfant. Ce bébé venu comme sauveur. Et à l'image des bergers, nous sommes appelés à réagir face à ce sauveur. Nous sommes appelés à réagir face à cette bonne nouvelle. Quelle va être ta réaction ? Rolly ?
On raconte que lorsque les bergers s'en furent allés et que l'inquiétude fut revenue, l'enfant de la crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un jeune garçon timide se tenait là, tremblant et apeuré.
« Pourquoi as-tu si peur ? Approche !»«
Je n'ose pas, je n'ai rien à te donner. »«
J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau. »
Le petit étranger rougit de honte.
« Je n'ai vraiment rien. Rien ne m'appartient. Si j'avais quelque chose, je te l'offrirais. Regarde. »
Et en fouillant dans ses poches, les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille lame de couteau rouillée qu'il avait trouvée.
« C'est tout ce que j'ai. Si tu la veux, je te la donne. »«
Non, garde-la. Je voudrais tout autre chose de ta part. En fait, j'aimerais que tu me fasses 3 cadeaux. »
Je veux bien, mais qu'est-ce que je peux t'offrir ?
Offre-moi le dernier de tes dessins. »
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la crèche et, pour empêcher Marie et Joseph de l'entendre, il chuchota dans l'oreille de Jésus.
« Je ne peux pas, mon dessin est trop moche, personne ne veut le regarder. »
« Justement, c'est pour cela que je le veux. » Tu dois toujours m'offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi. Ensuite, je voudrais que tu me donnes ton assiette.
Mais je l'ai cassée ce matin.
C'est pour cela que je la veux. Tu dois toujours m'offrir ce qui est brisé dans ta vie. Je veux le recoller. Et maintenant, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes parents quand ils t'ont demandé comment tu avais cassé ton assiette.
Le visage du garçon s'assombrit. Il baissa la tête honteusement et, tristement, il murmura.
Je leur ai menti. J'ai dit que l'assiette m'avait glissé des mains par inadvertance. Mais ce n'était pas vrai. J'étais en colère et j'ai poussé furieusement mon assiette de la table. Elle est tombée par terre et elle s'est brisée.
C'est ce que je voulais t'entendre dire. Donne-moi toujours ce qu'il y a de méchant dans ta vie. Je veux t'en décharger. Tu n'en as pas besoin. Je veux te rendre heureux. Et sache que je te pardonnerai toujours tes fautes.
Et en l'embarrassant pour le remercier de ses trois cadeaux, Jésus ajouta.
Maintenant que tu connais le chemin, j'aimerais tellement que tu viennes me voir tous les jours.
Si tu penses être extraordinaire, le message de Noël n'est pas pour toi, malheureusement. Si tu penses être juste, être sans péché, être meilleur que les autres, et donc ne pas avoir besoin de sauveur, alors tu ne peux pas comprendre une telle histoire. Je suis désolé d'être peut-être dur dans mes propos, mais c'est la réalité de l'Évangile. Dieu ne se laisse pas approcher par les orgueilleux. Dieu ne se laisse pas approcher par ceux qui pensent mériter quelque chose de lui. Si tu penses être trop ordinaire, alors laisse-moi te dire qu'aux yeux de Dieu, tu as une valeur extraordinaire. Parce que pour des gens aussi ordinaires que toi et moi, il a donné son fils, ce bébé extraordinaire. Dieu a suffisamment d'amour pour toi pour envoyer l'extraordinaire, transformer de fond en comble ta vie ordinaire. À travers Christ, Dieu veut te décharger du poids de ton péché, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a de moche, de brisé ou de méchant en toi, et transformer ta vie. Mais tu dois répondre à cette question. Est-ce que tu vas laisser l'extraordinaire transformer ta vie de pécheur ordinaire? Et je ne peux pas répondre à cette question pour toi. Je ne peux que prier. C'est une réponse à donner personnellement. Est-ce que nous allons laisser l'extraordinaire transformer notre vie de pécheur ordinaire? Amen.